VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Et 11h à Conakry, midi à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Tchad, 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui en hommage aux 33 morts du double attentat suicide de lundi à N'Djamena, selon le tout dernier bilan officiel. Le président Idriss Déby Itno a promis que les auteurs des attaques répondront de leurs actes, Eddie Sango.
Visiblement ému, le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration hier à sa descente d'avion. Il revenait du sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Sans citer nommément Boko Haram, groupe djihadiste auquel est attribué le double attentat, M. Déby a parlé de la main invisible et ses commanditaires qui ont durement frappé le pays. « Je ne suis pas trop surpris puisque depuis notre engagement le 17 janvier 2015 aux côtés des pays qui sont menacés par les terroristes, j'ai continuellement dit au gouvernement de ne pas baisser la garde », a affirmé le président tchadien. Des attaques répétées de Boko Haram ont déjà frappé plusieurs fois les Nigeria, les Niger et les Cameroun. Celle de lundi n'est toujours pas revendiquée. Elle est, selon les autorités tchadiennes qui l'attribuent à Boko Haram, la première du genre dans la capitale tchadienne. La sécurité est renforcée à travers N'Djamena. Plusieurs suspects ont déjà été interpellés par les forces de l'ordre, mais les commanditaires et les complices sont toujours recherchés, selon le procureur de la République, Algassim Kamis.
Les enquêteurs tchadiens sont donc à pied d'œuvre pour faire la lumière sur le double attentat suicide de lundi. Pour en savoir davantage sur l'enquête, Timothée Donangmaï a contacté à N'Djamena le procureur Algassim Kamis.
C'est vrai, nous ne sommes pas habitués à des attaques terroristes. C'est la première fois que nous sommes victimes de tels actes. La police judiciaire est mobilisée. Donc, nous sommes en train d'abord de vouloir analyser la nature des engins. L'équipe de haut commissariat pour le déminage était sur le terrain. Nous avons fait des prélèvements des engins explosifs sur le terrain. Donc, ils vont nous dire exactement la composition matérielle de ces engins explosifs. Des analyses des ADN sur les premières victimes, notamment les docteurs même.
On parle de quelques suspects déjà aux arrêts. Qu'en est-il?
Pour le moment, il y a quelques suspects. Pour ne pas perdre la scène de crime, quelques personnes qui étaient sur place au moment des faits ont été interpellées. Bon, maintenant, l'enquête va déterminer leur connexion avec ce qui s'est passé, quel est le degré de leur participation, et s'ils sont réellement impliqués, là, c'est à l'enquête de déterminer.
Les deux attaques n'ont pas été revendiquées, mais au niveau du Tchad, on pointe du doigt Boko Haram.
Ceux qui se sont fait exploser, leur corps est complètement déchiqueté, mais leur tête a été intacte et retrouvée. Donc, les cicatrices sur le visage montrent bien que des ressortissants qui doivent vraiment appartenir à cette secte-là.
Pour ce qui est de l'enquête, est-ce que ce sera un effort exclusivement tchadien ou bien vous allez requérir une aide internationale?
Le terrorisme a montré qu'il n'a pas de frontières. L'enquête en matière de terrorisme a été toujours vraiment une enquête nationale et quelque part internationale. Pour le moment, les équipes qui sont sur le terrain se composent uniquement des officiers et des enquêteurs tchadiens. Mais nous ne crions pas si le besoin de l'enquête s'est senti. Nous ne crions pas une enquête internationale.
Le procureur de la République, Algassim Kamis, à N'Djamena. Au Burundi, où les élections législatives et communales sont censées avoir lieu dans moins de 2 semaines, prestation de serment à Bujumbura de 2 nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces 2 femmes remplacent les membres qui avaient démissionné pour protester contre les pressions du pouvoir. De Bujumbura, le reportage de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Le gouvernement a voulu marquer un coup. Pour installer les 2 nouveaux membres de la CENI, les parlementaires proches du pouvoir, les membres du gouvernement et les représentants des forces armées étaient tous présents. Et c'est le président Pierre Nkurunziza lui-même qui a présidé la cérémonie. La prestation de serment de ces 2 nouveaux membres de la CENI a été saluée par le président de l'institution, Pierre Claver Ndaïkarié.
Voilà, le Burundi est là. Nous avons 2 nouvelles commissaires de la CENI. Ce sont des citoyennes burundaises. Et elles ont, je crois, compris qu'il faut d'abord servir. Servir la nation, servir le peuple, servir au processus électoral. Et non pas céder aux pesanteurs externes à la commission électorale.
Sans surprise, l'opposition était absente au Parlement lors de cette cérémonie. Elle qui demande depuis plusieurs semaines une CENI et des dates consensuelles pour la tenue des élections.
Nous n'avons pas participé à cette cérémonie que nous considérons comme une parodie.
Charles Ntitigé, le président de l'UPRONA.
C'est une comédie politique parce que la mise en place des deux membres, nouveaux membres de la CENI, a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Les deux dames, après investigation, sont proches du CNDD-FDD. On n'a pas contacté les partis de l'opposition, alors que normalement, la mise en place doit se faire de manière consensuelle. Donc aujourd'hui, c'est une CENI qui est composée exclusivement des membres du CNDD-FDD. Donc c'est une CENI tout à fait acquise à la cause du candidat Nkurunziza.
Récemment, le président burundais Pierre Nkurunziza avait affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Ce mardi, le président de la CENI a martelé que son institution est prête pour la tenue des scrutins à venir. Pierre Claven Daïkarié.
En réalité, pour les élections des députés, pour les élections des conseils communaux, nous sommes prêts depuis plusieurs semaines.
Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, estime qu'environ 100 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins en raison de la crise et l'opposition rejette tout processus électoral qui ne tienne pas compte de ces réfugiés. Bujumbura, Bagassi Koura pour VOA Africa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le Sénat américain a décidé à une écrasante majorité hier d'interdire le recours à la torture dans les interrogatoires de terroristes présumés et autres suspects détenus par les États-Unis. Ce vote transforme en loi le décret du président Barack Obama qui prohibait l'utilisation de ce que les officiels américains appelaient des techniques d'interrogatoire renforcées. Idrissa Sedoudia.
Le vote de mardi fait suite à un rapport publié l'année dernière par la Commission sénatoriale du renseignement et qui a fait l'objet d'une bombe. La Commission y détaille des années d'abus abjects allant des simulations de noyade à l'alimentation détrectale, un procédé par lequel des aliments sont introduits dans l'anus de certains des détenus capturés après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Aux États-Unis. Ce rapport avait été rédigé par la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, alors présidente de la commission. Elle a aussi coparrainé la proposition de loi qui assujettit toutes les agences américaines, du Pentagone à la CIA, aux techniques d'interrogatoire autorisées par un manuel de l'armée américaine.
We can recommit ourselves to the fundamental precept.
Nous pouvons renouveler notre engagement en faveur du précepte fondamental que les États-Unis ne torturent pas, sans la moindre exception, sans la moindre équivoque, pour assurer que les erreurs de notre passé ne seront plus jamais répétées. Le co-auteur de la mesure, le sénateur républicain John McCain, président de la Commission de la Défense et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, a dit que sa propre expérience lui a montré que torturer des prisonniers ne produit aucun renseignement fiable.
Our enemies act without conscience. We must not.
Nos ennemis agissent sans conscience aucune. Nous ne devons pas. Nous devons continuer d'insister pour que les méthodes que nous utilisons dans ce combat pour la paix et la liberté soient toujours aussi justes et honorables que les objectifs et les idéaux que nous défendons dans cette lutte. Certains collègues républicains de M. McCain ainsi que certains candidats de son parti à la présidentielle de 2016 ne le voient pas ainsi. Ils estiment en effet que dans certains cas extrêmes où des vies américaines sont en jeu, les autorités américaines devraient avoir une marge de manœuvre quant aux tactiques utilisées pour soutirer des informations aux terroristes présumés. Cela dit, rien ne garantit à ce stade la promulgation de cette loi. Elle a été votée comme un amendement à un énorme projet de dépenses militaires, dont certaines contre lesquelles la Maison-Blanche menace d'user de son veto, bien que l'opposition du président Barack Obama à la torture ne fasse pas l'ombre d'un doute depuis son arrivée au pouvoir.
La guerre contre le groupe État islamique maintenant, la stratégie du président Barack Obama pour vaincre les djihadistes de l'État islamique devrait être l'un des principaux sujets de discussion aujourd'hui au Congrès américain à Washington. Alors que le secrétaire à la défense Ashton Carter et le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes, témoignent devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants sur la situation au Moyen-Orient. Le président Obama refuse de déployer des troupes américaines sur le terrain pour participer directement à la lutte contre les djihadistes. Sa stratégie depuis 10 mois consiste à employer l'aviation pour bombarder les positions de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.